Bonjour, je suis Lionel Sauté, bienvenue dans L'avenir est à la campagne, le podcast. Pour ce cinquième épisode, nous rejoignons Claire Desmarpoirier pour la seconde partie de l'entretien qu'elle m'avait accordé au printemps 2021. Claire Desmarpoirier est agricultrice et autrice du livre « L'exode urbain manifeste pour une ruralité positive » aux éditions Terre Vivante. À ce moment de notre entretien, je lui parlais des difficultés sociales liées à une installation en milieu rural. Par chez moi, on dit que si vous n'avez pas plusieurs ancêtres au cimetière, vous n'êtes pas vraiment d'ici. Alors quelle place pour les néos et quel accueil par les iciciens ?
Je pense qu'il faut dissocier être d'ici et appartenir à la communauté. Moi, je serais toute ma vie une hors-venue, c'est-à-dire que effectivement, je suis pas née là et j'ai pas trois ancêtres au cimetière. Mais c'est pas pour ça que j'ai pas une place dans la communauté. Et en fait, la vraie question, c'est à quoi on veut prétendre. Enfin, moi, je ne prétends pas à la médaille de la de la Sixtine la plus ancienne. Enfin, je veux dire, on est des nouveaux venus et on l'assume et on le vit très bien. Et ça ne m'empêche pas d'avoir une place dans cet espace-là. Et je pense que effectivement, il y a une forme d'humilité à se dire que bah oui, il va falloir s'intégrer, c'est un processus. Mais après, je suis toujours surprise d'entendre des gens dire oui, mais à la campagne, on va pas être bien accueilli. Je veux dire, quand on déménage de Lyon à Lille, on se demande pas si on va être bien accueilli en fait. Et par ailleurs, pour avoir déménagé pas mal de fois dans ma vie, et je pense que c'est le cas de pas mal de gens qui ont vécu en ville, enfin les problèmes de voisinage, c'est pas lié à la ruralité, hein. Les problèmes de voisinage, il y en a partout. C'est à partir du moment où on a des voisines et des voisins, ça se peut qu'on vive des problèmes de voisinage, vu qu'on est des êtres humains et qu'on n'est pas toujours en phase sur nos attentes, nos besoins, nos contraintes, et voilà. Donc là-dessus, je pense qu'il faut, enfin, faut pas surinvestir et surtout, faut pas demander aux ruraux ce qu'on demanderait pas aux urbains. Donc oui, il y a des peurs. Effectivement, je pense qu'il y a des appréhensions qui sont aussi justifiées. C'est-à-dire que moi, je vois de la part des accueillants des gens qui disent mais est-ce que ces gens, ils viennent juste consommer mon territoire ? Nous, on est en Bretagne, les gens voient la côte où les villages sont désertés l'hiver, alors que c'est impossible pour les gens qui habitent là de se loger. Où du coup le territoire est vraiment purement consommé et les gens ne participent pas à la vie locale, ils s'installent pas là vraiment, ils mettent pas leurs enfants à l'école, les classes ferment et pendant ce temps-là, c'est quand même pas possible de trouver une maison parce que le prix du foncier augmente. Donc le rapport au territoire, il est nécessairement dans cette interrogation. La question que se posent les gens quand vous arrivez, c'est est-ce qu'ils vont avoir envie d'être là avec nous et pas juste pour le paysage. Et cette question-là, en fait, elle est légitime de la part des accueillants. Et je pense que c'est aussi aux nouveaux arrivants de faire le pas pour montrer que oui, on a envie d'être partie prenante, que non, on n'arrive pas tout puissant avec nos projets magiques et géniaux. Et si les gens comprennent pas, bah c'est qu'ils sont pas assez malins pour comprendre. Faut être humble, il faut proposer, il faut écouter les besoins du territoire, il faut s'adapter, il faut être capable de pivoter, comme on dit dans les formations aux porteurs de projets, c'est-à-dire voilà, de tenir compte de cet espace-là pour y trouver sa juste place. Et je pense que quand on fait ce processus-là, on grandit, on rencontre des gens extraordinaires, et oui, on accepte d'être un peu dessiné par ce territoire et pas seulement d'avoir la prétention de soi y apporter sa pierre, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important et c'est pour moi une des clés de la réussite de la néo-ruralité, en fait.
Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est absolument fondamental, cette dimension intérieure, ce cheminement dans la démarche de quitter la ville pour la campagne. Je me permets de citer encore une fois un petit passage du livre. Vous dites « Il existe une forme de confort à se laisser porter par les modèles sociaux imposés, les ambitions que nos parents avaient pour nous, à subir finalement des choix que l'on n'a pas vraiment fait, notamment parce qu'inconsciemment, cela permet de tenir les autres pour responsables des problèmes que l'on rencontre. » Certains initient leur exode urbain dans la même logique consumériste que celle qui présidait à leur vie précédente. Cela déchante souvent très vite. L'exode urbain n'est pas simple, il n'existe pas de recette magique. Un tel projet implique avant tout d'être prêt à se construire. Pour cela, il faut du temps, accepter d'essuyer des échecs et savoir demander de l'aide. Et c'est à 1000 km de ce que l'on nous apprend à l'école, à nous d'en prendre conscience. Effectivement, l'exode urbain, c'est aussi faire le bilan du mythe de l'exode rural pour le balayer, sans pour autant créer un autre miroir aux alouettes. Et à un moment donné, vous invitez notamment les candidats au départ de la ville vers la campagne à rédiger ce que vous appelez leur carnet de rêve. C'est joli cette idée, il s'agit de quoi ?
Je pense qu'on ne peut pas changer de vie sans la rêver. Et on peut pas globalement construire un autre monde sans le rêver. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Après, par ailleurs, c'est une étape, c'est un virage de vie, le fait effectivement de quitter un modèle qui est un modèle dominant, où il est assez facile de justifier sa position parce que c'est un modèle social dans lequel il est facile de trouver une place, pour quelque chose d'un peu plus marginal. Et donc, quand on doit le défendre, y compris vis-à-vis de soi-même par moment, dans les moments de doute, c'est bien d'avoir écrit quelque part ce qui nous anime dans ce processus-là. Quand on part seul, c'est un moyen de trouver des repères dans le processus qui va se construire ensuite. Ben voilà, je suis partie de là. Peut-être qu'aujourd'hui, 1 an, 2 ans, 5 ans plus tard, j'en suis pas tout à fait au même point qu'au point de départ, mais j'essaye de comprendre ce qui m'a amené à bouger sur certaines lignes. Est-ce que c'est des choses extérieures qui se sont imposées à moi, ou est-ce que c'est une évolution intime qui s'est faite? Et puis, quand on est plusieurs, que ce soit pour un projet collectif ou pour un projet de couple, c'est aussi un moyen d'être capable de formuler les attentes qui sont projetées par chacune et chacun, qui sont jamais les mêmes. En vérité, il y a sans doute un schéma commun à nos inquiétudes, à nos doutes, à nos peurs, mais quand même, c'est des choses très intimes, donc c'est très personnel. Et donc, il ne faut pas projeter sur les autres ces attentes à soi. Elles sont pas forcément les mêmes. Et donc, c'est important d'être capable de dire, voilà, moi, c'est ça qui m'anime et c'est ça qui est très important pour moi. Et c'est pas forcément la même chose que toi, mais on va essayer de faire en sorte que chacun s'y retrouve dans ses besoins et soit respecté dans ses limites pour que ça fonctionne bien. Donc, pour moi, le carnet de rêve, c'est ça. C'est un moment où on pose le cadre de ce qui va permettre la réussite d'un projet, d'installation, d'un projet de... Parce que je parle beaucoup de porteurs de projets entrepreneuriaux. Enfin, là, on parlait des modèles d'entreprise, de l'ESS, etc. Oui. Mais partir à la campagne, c'est pas nécessairement changer de métier. On peut rester comptable, infirmière, médecin, dentiste, j'en sais rien. Enfin, je parle de profession médicale, mais juriste, technicien. On peut faire le même métier à la campagne que celui qu'on faisait en ville. Mais on va peut-être le faire différemment. Donc voilà, c'est un projet de vie. Et dans ce cadre-là, je trouve qu'il est toujours intéressant d'être capable de l'écrire et de le dessiner même, parfois, parce que les projections, c'est parfois des images, enfin, ça dépend un peu comment chacun imagine les choses, mais je pense que oui, l'écrire, le dessiner, c'est une étape qui est importante pour la naissance réelle d'un projet, ça accompagne aussi le processus du départ.
Et ça me permet de glisser sur la question suivante, la question des besoins que vous abordez dans le chapitre 3. C'est là aussi quelque chose de très intéressant. Vous avez commencé à en parler. On est dans un monde, c'est bon, maintenant je crois qu'on a intégré cette notion. Les ressources de ce monde sont finies, enfin, sont pas finies, mais c'est-à-dire qu'elles ne sont pas extensibles à l'infini. Décroître, ça semble être une nécessité, voire une urgence. Donc... Effectivement, envisager un rapport différent à nos besoins, les interroger, en tout cas, ça semble vital. De quoi est-ce qu'on a besoin pour vivre? Et donc, je vous pose la question, de quoi est-ce qu'on a besoin pour vivre? Et puis surtout, est-ce qu'on a tous besoin de la même chose?
Dans le processus qui va se mettre en place, qu'on le souhaite ou pas, dans le cadre de la crise ou face aux exigences de la crise climatique, on va devoir se poser la question de nos besoins. Et on va devoir faire des choix entre ce qui est vraiment indispensable et nécessaire à notre bien-être, et qui, si on devait l'abandonner, serait vécu comme l'inverse d'un progrès social, et puis ce qui est superflu, dont on n'a pas besoin, voire qui pollue nos vies, nos rapports les uns entre les autres, notre bien-être psychique ou physique, voilà. Dans ce cadre-là, il faut être capable de mettre des barrières. Alors, je pense intimement que les barrières et les besoins ne sont pas les mêmes pour tout le monde, et pour les personnes ne sont pas les mêmes à différents moments de leur vie. Donc, c'est important de pouvoir fixer un cadre à un moment, à un temps T, et de pouvoir dire, voilà, aujourd'hui j'en suis là, ça j'en suis capable, ça j'en ai vraiment besoin, ça c'est pas possible. Et d'être capable de se dire, voilà, si vraiment je me posais la question de mes besoins, j'en serais là. Parce que il y a un gros enjeu, c'est que beaucoup de gens partent, et plus encore là après la crise du Covid, font des projets de départ sous le coup de la frustration. C'est-à-dire ils en peuvent plus, ou de leur travail, ou de leur mode de vie, de l'état de santé dans lequel ils sont.
Oui, c'est plus de l'ordre de la fuite, quoi.
Voilà. Et donc il y a un niveau de frustration qui est accumulé, qui est très très fort. Moi, je vois des gens qui habitent dans des espaces tout petits, qui n'en peuvent plus, qui supportent plus d'être avec leurs enfants dans la même pièce tout le temps, qui supportent plus les bruits des voisins, qui n'en peuvent vraiment plus des autres, et qui disent, mais moi, je vais aller m'isoler. Oui, mais est-ce que tu es vraiment capable de vivre seul dans un endroit isolé? Si c'est une réaction à un trop-plein d'interactions sociales subies aujourd'hui, ok, mais peut-être qu'il faut poser où sont vraiment tes besoins. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Des gens qui, pareil, c'est trop petit, j'ai besoin d'espace. Et après, ils se retrouvent dans des espaces beaucoup trop grands pour eux, dont ils savent pas quoi faire. Et en plus, ça a un coût, ça. Hein, donc voilà, ah oui, on rêvait d'espace, on a pris une grande baraque. Ouais, bah maintenant, il faut la chauffer, il faut l'entretenir, il faut voilà. Et en fait, parfois, la notion de besoin, elle est à repositionner. Par exemple, oui, ça peut être trop petit de vivre dans 20 mètres carrés à deux quand on est en ville. Mais c'est pas pour ça qu'on serait pas super heureux dans une tiny avec un espace extérieur où l'espace de la maison n'est qu'un espace pratique où finalement on fait à manger, on dort, on se lave. Mais par contre, l'espace de vie et l'espace professionnel est un espace qui est extérieur. Donc voilà, c'est un gros enjeu en fait. Oui, on peut se sentir enfermé dans 25 mètres carrés en ville, mais se sentir dans un grand espace, dans la même surface habitable, mais par contre dans un espace différent dans lequel évoluer. Donc ça, je pense que c'est des choses, et on n'est pas toujours à même de le poser juste à la sortie d'un moment de grande difficulté. Donc ça peut être l'occasion aussi de trouver des étapes intermédiaires pour faire redescendre la pression et se poser réellement la question de ses besoins face à ça. Après, il y a des gens qui font l'inverse, qui font le grand saut, qui vont se mettre, j'ai envie de dire, c'est un jeune, ils vont faire des jeunes intellectuels, ils vont se mettre dans des situations qui sont pas forcément évidentes pour essayer de tester leurs limites et pour essayer de voir où ils en sont. Voilà, les gens qui partent en voyage loin, en autonome, des gens qui partent expérimenter des lieux de vie un peu ultra, enfin très radicaux, en se disant, bah voilà, est-ce que je suis prête à aller jusque là ou pas. Voilà, il y a différentes manières de se tester, mais en tout cas, je pense que interroger cette notion de besoin pour se dire, bah voilà, moi j'ai besoin d'un peu d'espace, c'est pas scandaleux de dire j'ai besoin d'une pièce pour moi, pour pouvoir travailler, pour pouvoir créer si je suis artisan ou si je suis artiste. Il n'y a pas de problème avec ça, mais il faut vraiment se demander si c'est un besoin, dans quelle mesure il prend place, comment est-ce que ça peut s'incarner, parce que c'est pas forcément lié à l'habitat, parce que ça peut être aussi un espace partagé avec d'autres gens dans un outil de mutualisation. Ben voilà, il y a plein de choses, ça donnera aussi plus de solutions et plus de possibilités à la mise en œuvre du projet en pratique. Est-ce que je cherche une maison avec un atelier, ou est-ce que je cherche une maison, un lieu de vie et un atelier? Voilà, ça, très pratiquement par exemple.
L'abondance peut naître de la décroissance, écrivez-vous. Certains besoins sont pratiques, les notions d'espace par exemple, mais je suis personnellement toujours choqué du rapport au beau, au sensible, quand je vais en ville, vivre entouré de voitures, de béton, de routes, voire pour certains de décharges sauvages, ben, il me semble que ça forge une vie. Ceci dit, on peut aussi être dans une démarche de simplicité volontaire en ville, on peut notamment beaucoup plus simplement qu'en milieu rural se passer de voiture par exemple.
Ah oui, mais moi de toute façon je ne jette pas l'opprobre sur les gens qui ont envie de vivre en ville. Je dis juste que ça ne doit pas être la seule solution. Qu'on a la possibilité de... Je pense que c'est plus compliqué de chercher un espace de cohérence et de chercher un espace de sérénité en ville, mais que ça n'est pas impossible. Et en plus, ça dépend des espaces urbains, puisque effectivement, la qualité de vie qu'on peut avoir dans des villes de l'Ouest comme Rennes ou Nantes n'est pas celle de certaines cités de la banlieue parisienne. Donc, je pense qu'on a évidemment des contraintes de vie qui sont différentes en fonction des espaces. Et oui, il est tout à fait possible de vivre bien en ville. Mais ce que je constate, c'est que 80% des gens disent que c'est pas le cas. Donc, ceux qui s'y retrouvent, ceux pour qui c'est essentiel, ceux pour qui c'est le mode de vie rêvé, ben c'est super. Mais moi, c'est pas à ces gens-là que je m'adresse. Je m'adresse à ceux qui ne se retrouvent pas dans cet espace et qui le vivent comme une contrainte et qui souhaiteraient se libérer de cette contrainte.
Il y a un chapitre qui m'a évidemment beaucoup intéressé dans le cadre de mes réflexions et puis de ce projet, c'est celui où vous évoquez l'accès à la culture en milieu rural. Vous dites qu'il est important d'amener à la campagne des événements artistiques qu'on peut penser réservés au centre urbain, mais aussi qu'il y a une vraie richesse à explorer dans la culture endémique, c'est une belle expression, cette culture endémique, ça regroupe quoi, cette culture endémique? Tout le patrimoine oral et écrit qui est parfois un peu perdu, et on a plutôt envie de singer, entre guillemets, la ville et d'avoir accès, nous aussi, à des choses qu'on peut trouver en ville, en oubliant parfois qu'il y a une vraie richesse dans la culture qui existe déjà ou qui existait et qu'il faut parfois dépoussiérer et retrouver.
Mais ça, c'est logique. C'est-à-dire qu'il y a toujours une forme d'exotisme et de choses plus séduisantes sur ce qui vient de l'extérieur. Donc, c'est normal. Après, il y a aussi des codes sociaux, hein. C'est-à-dire que la culture légitime, c'est la culture de la ville. Le théâtre tel qu'il est vécu dans les communes rurales, c'est pas le théâtre des scènes nationales des grandes villes. Et le théâtre légitime, on sait lequel des deux c'est. Et pourtant, ici, il y a plein de gens qui pratiquent le théâtre dans chaque village. Les représentations, elles jouent à guichet fermé pendant des semaines. Les gens, ils aiment ça. Ils aiment ce spectacle vivant. Mais c'est plutôt eux qui sont à l'initiative de le faire. La culture est plus partagée, elle est plus co-construite, elle est moins consommée dans les territoires ruraux, et c'est effectivement pas la même. Et elle est moins légitime et moins visible à l'extérieur. Donc il y a une forme de complexe, et puis il y a une forme de non-conscience de l'espace culturel dans lequel on évolue. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Oui, il faut amener la culture légitime dans les territoires ruraux, c'est important. Et puis, c'est hyper bien reçu. Enfin, voilà. Moi, j'avoue que j'ai eu la chance d'accueillir des spectacles vivants, de la danse ou du théâtre, en partenariat avec des structures comme le TNB à Rennes ou comme des compagnies de danse. Voilà. C'est vraiment une chance inouïe et c'est super. Et les gens le reçoivent hyper bien. Mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'on a aussi quelque chose à affirmer dans une forme de cette culture qu'on vit au quotidien. Enfin, voilà, j'en ai débattu dans une émission sur France Inter et il y a une auditrice qui appelle pour dire « mais oui, c'est vrai, moi, tous les week-ends, je dois choisir entre un fest-noz, une veillée, une lecture chez quelqu'un, une sortie de résidence. » Il y a plein de cultures ici. C'est pas la même, mais il y en a plein. Donc, voilà, je pense qu'il y a effectivement à interroger le rapport à la culture et l'accès à la culture, et peut-être à revaloriser celle qui est là à notre disposition, parce que c'est un patrimoine vivant qui pourrait s'éteindre si on lui donnait pas assez d'attention.
Faire avec plutôt que faire pour, s'ancrer au territoire et une fois encore vivre autrement l'espace et le temps, écrivez-vous. Ça me fait penser à cette citation de Jacques Rancière qui disait que l'égalité des intelligences reste la plus intempestive des pensées que l'on puisse nourrir sur l'ordre social. Et il invitait les intervenants artistiques, les créateurs, à prendre la parole des habitants comme une pensée et pas seulement comme un témoignage. Ça change toute la démarche et c'est bien dans celle-ci que ce projet L'avenir est à la campagne s'inscrit. Voilà, c'était une petite parenthèse. En tout cas, faire avec plutôt que faire pour. Et pour finir, Claire Desmarpoirier, je voudrais lire un dernier extrait de votre livre où vous écrivez: il existe deux images antagonistes des espaces ruraux. D'un côté, la campagne évoque la douceur de vivre, le calme, la nature, un rapport plus attentionné au temps, au cycle des saisons et aux liens entre les générations. Cette campagne est un rêve, à mi-chemin entre Regain de Giono et les tableaux des impressionnistes. D'un autre côté, la campagne est vue comme cette cambrousse que l'on dénigre, cet espace oublié des politiques d'aménagement du territoire, où se côtoient misère sociale et abandon administratif. C'est un espace sans progression sociale, sans accès à la consommation de masse, coupé des réseaux, sans offres culturelles, parfois même sans habitants. Cette représentation peu réjouissante est celle que l'on intègre dès l'école primaire, mais c'est aussi celle que transmettent parfois les parents ou les grands-parents qui, les premiers, ont quitté les zones rurales pour s'installer en ville. Cet antagonisme largement alimenté dans l'après-guerre n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, c'est à mi-chemin entre ces deux archétypes qu'il faut chercher un semblant de vérité. Tout comme la ville, la campagne est plurielle. Les zones rurales de demain seront ce que l'on en fera. Existe-t-il une voie médiane, celle d'un espace ouvert et inclusif qui respecte les individus et leur donne une place dans la communauté, qui les reconnaît, tout en leur offrant la possibilité d'être eux-mêmes, une réalité dynamique et mouvante, loin de la campagne carte postale? Tout l'enjeu de l'exode urbain est de réajuster l'image de la ruralité, de modifier le rapport de force entre ville et campagne, de faire valoir nos droits et notre rôle de citoyen en agissant au quotidien pour les territoires ruraux et celles et ceux qui y vivent. La campagne peut et doit vivre, en aucun cas elle ne doit être qu'un outil de productivité. Réensauvageons-nous, posons nos valises, nos rêves et notre énergie loin de la ville, et avant tout, soyons fiers d'être ruraux. Claire Desmarpoirier, quelque chose à ajouter à cette belle conclusion?
Pas grand-chose, mais oui, je pense que c'est important de sortir de ce dualisme entre un territoire consommé de loisirs, mais où finalement on n'est pas capable de se projeter plus d'un week-end, et cet espace distancié dont l'image, qui est celui issu de l'exode rural, colle toujours assez dur au basque, quoi. Et je pense que là-dessus, on a, en France en particulier, hein, parce que en France, on traîne le bagage de cette idée que les territoires ruraux, c'est l'espace de la contre-révolution, c'est des espaces conservateurs, et que le progrès, c'est la ville. C'est pas toujours le cas dans d'autres pays, notamment en Angleterre, par exemple. Mais je pense qu'on a vraiment, une nouvelle iconographie à construire. Il faut changer l'image des territoires, il faut changer l'image de la campagne, il faut rééquilibrer, il faut permettre une liberté de choix. Et oui, ça passe par une forme de réenchantement, mais pas très éloigné du réel, en fait. Ce qui est fou, c'est que on est allé tellement loin dans le dénigrement qu'il suffit de regarder ces espaces et les gens qui y vivent, parce que la ruralité, c'est pas la campagne, c'est pas un espace vide, c'est un espace qui est plein, qui est riche, où il y a beaucoup de choses, où il y a de la biodiversité, où il y a plein de gens différents, et voilà, et de pas se dire que c'est un espace vierge à conquérir, c'est l'inverse de ça, en fait. C'est plutôt à la rigueur, j'aime plutôt les métaphores de l'espace ensauvagé à apprivoiser. C'est-à-dire que, mais c'est à nous de nous laisser apprivoiser, c'est l'inverse. C'est un message d'espoir qui est à la fois pour les urbains qui cherchent une porte de sortie face aux difficultés qu'ils rencontrent, et aujourd'hui plus encore dans le cadre de la crise du Covid, dans leur mode de vie qui leur convient plus. Mais c'est aussi un message d'espoir pour les territoires ruraux. Enfin, moi, je l'ai vécu quand j'étais enfant, et je l'entends encore aujourd'hui, des parents dire à leurs enfants, tu dois partir pour réussir. Je trouve que c'est terrible comme message. Se dire qu'il y a des jeunes à qui on dit, tu dois choisir entre ton réseau d'amis, le territoire qui t'a vu grandir, les gens que t'aimes, ta famille, tes proches, cet espace auquel tu appartiens, et le fait de réussir ta vie. Soit tu restes, tu bénéficies de ça, mais considère-toi comme un loser. Soit tu pars, tu réussis, mais tu vivras toute ta vie avec cette déchirure-là. Franchement, je trouve que c'est terrible, et j'aimerais vraiment du fond du cœur qu'on arrête avec ça, quoi. Et qu'il y a des gens qui ont besoin de prendre l'air. Il y a toujours eu des voyageurs, des aventuriers, des gens qui ont besoin de casser les frontières et d'aller plus loin. Et qu'ils soient libres de circuler, de faire leur vie où ils ont envie de la faire, c'est très important. Mais j'aimerais vraiment que ceux qui sont attachés à leur territoire et qui n'ont pas ce besoin-là, et la possibilité, la chance de pouvoir vivre là où ils le souhaitent. Et je pense qu'à ce titre-là, enfin, le message que je porte est un message d'espoir pour et une main tendue aussi entre ces deux espaces.
Claire Desmarpoirier est donc l'autrice du livre L'Exode urbain, manifeste pour une ruralité positive, aux éditions Terre Vivante, que vous pouvez retrouver au prix de 10 euros dans toutes les bonnes librairies, dont le Tracteur Savant à Saint-Antonin-Nobleval. Merci à la Talvera, à qui on doit le générique du début de ce podcast. La chanson que vous entendez est tirée de leur dernier album « À tout bail », sorti l'an dernier. Et merci aussi à Rix pour l'avoir revisité et concocté l'habillage musical de tous les épisodes. L'Avenir est à la campagne est un projet artistique de territoire concocté par la compagnie Les Funambules, soutenu par l'Été de Vaour, en partenariat avec la DRAC Occitanie, la 4C, l'ADA du Tarn, le Théâtre du Colombier et CFM Radio. Des infos sur le projet, lesfunambules.fr. Une adresse mail, avenircampagne@lesfunambules.fr. À très vite pour la suite.
L'Avenir est à la campagne!